Je suis né le 15 février 1922 à Saint-Gilles-les-Forêts. Mon père était agriculteur. Il avait une petite propriété. J'étais à l'école à Saint-Gilles. J'avais quitté l'école en 1936, quand Georges Guingouin a été nommé instituteur. Il est passé chez mon père en tant que communiste. Il est venu lui rendre visite. Il m'a vu et il a dit: qu'est-ce que vous faites de ce jeune homme? Alors, mon père lui dit que j'ai quitté l'école et que je vais travailler la ferme. Guingouin, il dit: pas question, vous allez me le renvoyer à l'école et l'année prochaine, je vous le présente au certificat d'études. Mon père a pris bien d'hésitation à accepter les propositions de Guingouin et j'ai repris l'école pour un an et j'ai été présenté au certificat d'études en 1936. Voilà, la vie de Jean Diou commence à travailler la ferme avec toutes les difficultés d'alors. Très jeune, j'écoutais les discussions des voisins, des gens qui venaient à la maison. Souvent, ils parlaient de politique. Très vite, j'ai eu une éducation et j'ai commencé, moi aussi, à m'intéresser. Je suis même devenu secrétaire de l'Union des jeunesses agricoles de France pour la région de Sussac. Cela a duré jusqu'à la guerre. Je travaillais la ferme, puis la guerre vient. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, j'ai continué. J'étais trop jeune pour partir, pour être mobilisé. Mon père, trop vieux pour être... Il avait fait la guerre de 14-18, trop vieux pour être mobilisé aussi. Et puis la débâcle est venue. Nous avons vu arriver les réfugiés. Nous en avons hébergé. Les prisonniers sont rentrés. Les soldats de la débâcle sont rentrés et avec eux, en 1940, nous avons vu arriver Georges Guingouin, qui tout de suite a fait son tour dans la région pour récupérer les anciens militants communistes en vue de se réorganiser. J'ai accepté tout de suite la proposition et nous voilà embarqués dans la résistance dès juillet 1940 avec sa Roneo, la Roneo du Parti communiste de rayon des Moutiers. Nous avons commencé à éditer des tracts, d'abord à Saint-Gilles. Ensuite, il fallait se déplacer très souvent à Mouret, commune des Moutiers, chez Bourdaria, et ensuite à Soudaine-la-Vinadière. En 1941, nous avons été dénoncés par un faux frère et j'ai été arrêté. Nous avons subi les tortures de rigueur. Ensuite, nous avons été emprisonnés à Limoges et nous avons été transférés à Périgueux pour passer devant le tribunal militaire. Pour ma part, j'ai été condamné à 5 ans de prison, 1000 francs d'amende. Il y avait une interdiction de séjour, je ne me rappelle plus bien. Et nous avons été transférés au camp de Mozac, en Dordogne. Ce camp de Mozac, c'était la prison militaire de Paris qui s'était installée là-bas lors de la débâcle avec ses gardes et toute son administration. Mais très vite, à la suite des tortures, j'ai été transféré à l'hôpital de Bergerac, sur un brancard, très fatigué, je pesais 42 kilos, avec un poignet cassé, des côtes fêlées. J'en suis ressorti 2 mois après, soi-disant guéri, mais cette guérison était de courte durée. Et au mois de mai 1942, on m'a ramené à l'hôpital de Bergerac, où je devais rester environ 3 mois. Et ensuite, j'ai été dirigé sur un sana de l'Anne-Marie près de Périgueux pour me remettre un peu sur pied. Là, je suis resté jusqu'en février 1943. Et je suis ramené au camp pour continuer ma peine. Jusqu'au 6 juin 1944, date de notre évasion. Alors, de ce camp de Mozac, lors de notre évasion, nous nous sommes évadés avec l'aide de la résistance extérieure dont nous étions en relation. Mais ce camp, à l'intérieur de ce camp, il y avait environ 1500 détenus. C'était des détenus qui avaient passé au tribunal militaire de diverses régions, Clermont, Marseille, Bordeaux. Mais ils étaient condamnés pour des faits divers, vol des faits militaires, d'essence, de vélo, et non pour faits de résistance. Ils sont restés au camp. Nous sommes partis, nous, à 36. Nous étions déjà organisés dans le camp. D'ailleurs, nous nous sommes rendus à 36 mètres du camp. Et nous avons rejoint la résistance dans la région de Calais, de l'autre côté de la Dordogne, la rivière. Nous sommes intégrés dans la résistance. On nous met au repos pendant une quinzaine, dans des fermes, dans des hangars à tabac. On ne sortait pas du tout la journée, on était comme dans la prison, mais on se retapait un peu en vue de notre action par la suite. À ce moment-là, j'ai été affecté au maquis Annick, dans la région de Sigoulès. Son nom, c'était Maigre Charles. Il est devenu le capitaine Annick, commandant la 216e compagnie des frontières et partisans de cette région. Et à la libération de Bergerac, j'étais devenu son adjoint. Mais entre-temps, nous avons participé aux actions de ce maquis dans la région de Sigoulès, dès mai. Nous avons participé aux Trois Glorieuses, c'est-à-dire à la bataille qui a eu lieu les 15, 16 et 17 août 1944 à Sainte-Foy-la-Grande. Et nous avons participé à la libération de Bergerac. Ensuite, à partir de là, nous avons formé le 108e régiment d'infanterie, dont l'origine était le Bergeracois. Et nous avons fait la libération de la vallée de la Dordogne en passant par Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Émilion, il y a d'autres villes plus bas, et ensuite la libération de Bordeaux, fin août 1944. Là, nous sommes restés quelques jours en occupation et nous avons été dirigés sur le front de la Rochelle, dans la région de Surgères. Là, j'ai signé mon engagement pour la durée de la guerre vers le mois de septembre. Ensuite, début 1945, j'ai été envoyé à l'école des cadres et je n'ai plus connu la guerre car je suis rentré de l'école des cadres en mai 1945. Et là, nous avons été dirigés en occupation en Allemagne. Ça va ? En juillet 1945, notre régiment a été dissous, comme la plupart des régiments issus de la résistance. Et nous avons été dirigés en divers autres régiments. Et j'ai terminé ma carrière au 126e RI. Mais par la suite, la guerre d'Indochine est venue se brancher là-dessus. Et les grades que nous avions obtenus ont diminué comme la rosée au soleil. Et il fallait partir, signer un engagement pour partir en Indochine où on était dégagé des cadres. J'ai refusé de partir en Indochine à ma demande et j'ai été démobilisé au mois de juin 1945.
Pouvez-vous nous préciser les conditions dans lesquelles a été organisée votre arrestation et surtout les interrogatoires qui ont suivi votre arrestation ?
Quand ce qui concerne mon arrestation, c'est sur une dénonciation d'un nommé Pantex Charles, habitant à Bona, commune de Chambéry, qui faisait partie de notre organisation, qui a, par une lettre écrite ou dictée, a envoyé à la gendarmerie de Trégnac dénonçant une organisation communiste qui sévissait ou qui travaillait dans la région de Saint-Gilles et Moutier, Domps et même Chambéry. À la suite de cette dénonciation, la police spéciale de Vichy s'en est mêlée. Et tout un scénario a été inventé pour pouvoir arrêter une vingtaine de personnes que Pantex avait soi-disant écrit sur cette lettre. En frappant fort, on pensait que quelqu'un avouerait et dénoncerait l'organisation. Personne n'a rien avoué. Toutefois, avec mon camarade Anita, nous étions accusés par Charles Pantex d'avoir transféré une Renault et du matériel à imprimer en plusieurs endroits, et ils nous avaient vus ensemble. Nous avons été condamnés, moi, à 5 ans de prison, 1000 francs d'amende, interdiction de séjour, etc. Et mon amie Anita, lui, a 15 ans de travaux forcés. La même amende, je ne me rappelle plus bien, et interdiction de séjour.
Voilà.
Cette dénonciation a amené une descente de la police spéciale de Vichy dans notre région. Il y avait une quinzaine de voitures qui sillonnaient la région d'Émoutiers, Sussac, Châteauneuf, Émoutiers. Lors de mon arrestation, j'ai été amené à Châteauneuf-la-Forêt. C'est là où ont commencé les exactions, avec des matraques, à coups de poing, à coups de pied, des torsions de membres. D'ailleurs, j'ai eu un bras cassé, des coups de pied dans les côtes, où j'ai eu des côtes fêlées. Pendant toute la journée à Châteauneuf, mon camarade Anita a subi à peu près le même sort. Ils se sont mis à quatre pour le charger le soir dans une traction pour le transférer à Limoges. C'était un vrai cadavre. Moi, je ne valais guère mieux. Notre interrogatoire s'est poursuivi pendant 3-4 jours en présence du sieur Pontex avec un carnet sur lequel étaient écrites les questions qu'il devait nous poser, la tenue d'une réunion, nos recherches d'armes, nos distributions de tracts, le va-et-vient de notre imprimerie, ou ce qu'il en savait. Et toujours cela avec de drôles de traitements. Ensuite, j'ai été interné et transféré à la prison de Limoges en vue de ma condamnation ou de mon transfert à Périgueux en vue du tribunal militaire qui a siégé le 13 novembre 1941, où j'ai été condamné, je viens de vous le dire. Oui, mais...
Pouvez-vous nous préciser quelle était, quelle était la vie quotidienne dans le camp de Mozac, en particulier au moment où vous êtes revenu de l'hôpital militaire de Bergerac, à partir de février 1942.
La nourriture, votre partage...
Oui, je suis arrivé au camp en février 1942, à la suite de ma première hospitalisation, et j'ai retrouvé mes camarades de misère. Alors le camp, c'était des baraques doubles où on était 50 de chaque côté avec des lavabos au milieu et une tinette dans chaque baraque. On était couché sur deux rangs, sur des petits lits militaires avec chacun deux couvertures. Quant à la nourriture, on passait à la gamelle au réfectoire. Avec une nourriture dont le principal légume était la carotte ou le rutabaga. À certaines époques, c'était des betteraves fourragères coupées en petits cubes dans une eau infecte. Une fois par semaine, il y avait un petit lardon de quelques grammes de viande. Nous avions notre ration normale de pain, une fois par jour. Le soir, c'était un infect bouillon. Le matin, comme café, c'était le même bouillon qui était servi dans les baraques, avec un quart chacun. Heureusement, la solidarité entre nous existait. Nous nous étions formés par groupe et nous partagions entièrement nos colis, ceux qui en avaient ou ceux qui n'en avaient pas. Il y avait à peu près le même nombre d'égales dans chaque groupe qui recevait des colis et partageait avec les autres. Cela nous permettait de survivre. Ceux qui n'avaient pas de colis disparaissaient au bout de quelques mois. On les amenait à l'hôpital, gonflés d'édème, on ne les revoyait plus. Je suis resté à ce régime jusqu'au mois de mai où j'ai été réhospitalisé. Mon état s'étant réaggravé.
Pouvez-vous nous dire qui était responsable donc du camp, qui vous gardait durant toute cette période?
Parmi les gardiens, d'abord un commandant. Et ensuite, comme adjoint, un lieutenant et un adjudant-chef. Il y avait l'appel chaque matin, chaque soir. Le travail était obligatoire. Il y avait des ateliers où on coupait la paille en vue de la confection de chapeaux. D'autres travaillaient dans les jardins. Moi, bien sûr, en tant que cultivateur, j'ai eu droit à une place dans un jardin, bien sûr sous la surveillance de gardiens et à l'intérieur du camp. Par la suite, les petites peines, mais ce n'était pas nos cas, ont eu droit aux travaux d'agriculture dehors, au dehors, parce que les dépendances du camp avaient repris toutes les parcelles où devait être construite la future poudrerie qui devait être construite là-bas dans les années 35-38.
Mais pouvez-vous préciser l'organisation de votre évasion? Comment avez-vous pensé cette évasion? Comment l'avez-vous réalisée?
Notre organisation a toujours vécu avec les va-et-vient de chacun, hospitalisation ou libération ou transfert dans une autre prison. Fallait combler les vides et reformer les groupes, premièrement pour la solidarité, ensuite pour l'organisation, parce que nous avons toujours été organisés quasi militairement en vue d'une évasion future. Quand je suis rentré du Sana en 1943, début de l'année, février, l'organisation existait déjà, mais on a continué et je suis devenu un des agents de liaison parce que je travaillais à l'intérieur du camp, dans les jardins, mais il y avait des possibilités de passer quelquefois quelques papiers et la possibilité de parler davantage aux gardiens. Parce que les gardiens de la prison militaire s'étaient amenuisés et étaient venus les remplacer des sous-offres de la première armée française qui existait sous la France de Pétain. Ces gardiens, parmi eux, il y en a qui n'étaient pas contre nous. Ils n'étaient pas de notre obédience, mais ils n'étaient pas contre. Et ils essayaient de nous passer quelques papiers. Et avec cette liaison, nous avons pu contacter la résistance des environs de l'Allende et nous organiser en vue de notre évasion qui a eu lieu le 6 juin 1944, le jour du débarquement. J'ai appris le débarquement le matin par un gardien à mon réveil. Il est venu me le dire en douce. Il m'a dit, c'est pour ce soir à 9h. À 9h du soir, nous avons vu un remue-ménage autour du camp, dans les environs. Ce jour-là, bien sûr, nous n'étions pas sortis. Les portes étaient strictement fermées par la direction du camp. Alors, comme le soir, c'était à 9h, il était prévu que nous, les organisés, membres du Parti communiste et de la Résistance, nous nous rendions maîtres du poste de commandement. À 9h pile, les portes ont sauté. Nous avons attaqué le poste de commandement. La Résistance a cerné le camp. Et une demi-heure après, sans un coup de feu, sans rien, nous étions libres. Et j'étais armé depuis une quinzaine de jours dans le camp. J'étais un des patrons du camp. Avec mon ami Dollard, je peux vous montrer une lettre où il dit que c'est nous qu'on était les chefs des 36. Et ce même gardien m'avait passé un pétard. J'avais un 765 dans le camp.
Oui, donc les armes, elles étaient fournies soit par les gardiens, soit par qui?
Comment on les avait... Ah ben, lui me l'avait fait passer de dehors, il me l'avait porté pour au cas où le poste de commandement. C'était une petite... c'était pas une guérite, c'était une baraque où il y avait deux pièces. Il y avait d'abord le bureau, là, avec une planche, là, pour recevoir les détenus, et derrière il y avait les armes des gardiens. Quand ils s'en allaient, ils posaient leurs armes, quand ils revenaient, bon. Alors s'il y avait eu résistance, moi, j'avais ordre de liquider le gardien. Mais personne n'a eu...
Non, mais je veux dire, les armes étaient rentrées donc de l'extérieur par les gardiens, par le gardien, mais pas forcément par eux. Comment vous les procuriez, les autres?
Ah, mais il n'y avait que moi qui étais armé.
Ah, il n'y avait que vous, les autres
n'avaient pas d'armes. Il n'y avait que moi, il m'a fait passer cette arme. Je l'avais...
Il n'y avait qu'une arme, en fait.
J'avais qu'une arme.
Mais c'était pas la sienne.
Il n'y en avait qu'une.
Non, c'était pas la sienne.
Elle venait de résistance.
Non, c'était une arme qu'il avait récupérée, qu'on lui avait fait passer. Parce qu'en cas de résistance du poste de commandement, je devais tirer sur le gardien.
Mais donc les autres ont, sans armes...
Ah ben les autres, ils ont fait sauter les... Mais chacun avait pris une barre de fer, chacun avait pris un outil.
Parce que là, tu n'as pas spécifié que tu étais armé, elle seule.
Bon, je vais spécifier de...
Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça tourne.
Bon. On comprend très bien
quand
on a fait sauter les portes, tout ça.
C'est pas de la littérature française. Bon.
Oui. Pouvez-vous nous préciser l'intitulé exact de la compagnie FTP à laquelle vous avez participé?
Je précise que c'est la 2216e compagnie FTP de Dordogne.
Pouvez-vous préciser la date exacte à laquelle vous avez été rayé des cadres en application de la loi d'avril 1946?
C'est bien au mois de juin 1944.
Voilà, allez-y.
Réfléchis.
C'est bien. Au mois de juin 1946, je précise cette fois, que j'ai été rayé des cadres.